Radio Vatican, France et Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée lundi 6 septembre, notamment par les audiences du pape. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduit en Guinée, en Ouganda et en République démocratique du Congo, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le Saint-Père a reçu en audience lundi matin au Vatican le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales. Monseigneur Augustine Kasuja, nonce apostolique, Monseigneur Christophe Pierre, nonce apostolique aux États-Unis d'Amérique, Monseigneur Bertram Johannes Meyer, évêque d'Augsbourg en République fédérale d'Allemagne. La parole de Dieu est une source de nourriture et de croissance spirituelle. Son importance dans notre vie quotidienne nous oblige à la connaître et à l'apprécier pleinement. Le mois biblique offre donc aux catholiques l'opportunité de continuer à approfondir leur relation avec Dieu en écoutant attentivement sa parole, affirment les évêques du Malawi dans leur message pour le mois biblique qui est célébré en septembre. La conférence des évêques catholiques du Malawi, par le biais de sa commission pastorale, encourage tous les catholiques à posséder un exemplaire de la Bible, à la lire, à la méditer et à mettre en pratique la parole de Dieu. Cette année, la réflexion sur le mois biblique intervient au moment où l'Église universelle célèbre l'année de Saint Joseph, l'un des personnages bibliques qui ont obéi à la volonté de Dieu dans leur vie. Au Bénin, le père Roger Sévo, vicaire général chargé de la pastorale des paroisses dans l'archidiocèse de Cotonou, a récemment installé dans ses fonctions le nouveau curé de la paroisse Bon Pasteur Kadioune.
Le père Hubert Martin Satonabu Wakelo Wide, directeur de la communication du diocèse, le jeudi 2 août 2021, était à l'occasion d'une messe d'action de grâce qui a mobilisé de nombreux prêtres concélébrants, dont le vicaire général en charge des institutions, le père Théophile Akoha, les différentes composantes de la paroisse, de même que des autorités politiques et administratives. Outre le cérémonial de l'installation, l'instant de l'homélie a permis au père Sévo de s'adresser au nouveau curé.
Père Hubert, Dieu, à cette communauté du bon pasteur, t'envoie pour une mission d'éducation de la foi dans la foi de l'Église, à l'instar de tes prédécesseurs, patiemment dans la prière. Sois le précepteur qui fait route avec et qui conduit au Christ, le bon pasteur. Car quand le Seigneur donne sa grâce, la terre que nous sommes doit donner son fruit. Sois sans crainte.
En guise d'accueil de leur berger, la communauté paroissiale lui a fait don d'un tableau au logo du nom « Bon Pasteur » de la paroisse. Dans sa joie, le nouvel élu leur a déclaré
« Je voudrais simplement dire merci. »
Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Le diocèse de Seka au Cameroun tient ses premiers états généraux de l'enseignement catholique. Les détails dans cette correspondance.
Pour l'année scolaire 2021-2022 qui s'est ouverte le 5 septembre 2021 au Cameroun, le diocèse des Eka entend organiser de façon stratégique et opérationnelle le travail de l'enseignant catholique et contribuer ainsi à améliorer l'enseignement catholique au Cameroun. L'abbé Jean Brenonton est le secrétaire à l'éducation catholique du diocèse des Eka.
L'actualité concernant la jeunesse dans notre pays et même dans le monde nous pousse bel et bien à réfléchir. D'où l'importance de la convocation de ces états généraux qui permettront au diocèse des Eka de trouver des nouvelles pistes et des passerelles d'action synergétiques au sein de la communauté en vue d'un engendrement nouveau de notre jeunesse.
L'évêque des Eka, Mgr Réabi, a encouragé parents et enseignants à joindre leurs énergies afin de garantir aux élèves des écoles et collèges catholiques du diocèse des Eka une croissance harmonieuse en humanité, en spiritualité, en sagesse et en intelligence. Les membres de la famille éducative des Eka, quant à eux, ont pris la résolution de mettre en pratique tous les enseignements reçus durant ces assises afin d'assurer aux élèves et collégiens des Eka de meilleurs résultats scolaires. Paul Valéry Mondogo, DDA, pour Radio Vatican.
En République démocratique du Congo, première supérieure générale chez les sœurs dominicaines missionnaires des familles du diocèse d'Isiro-Niangara, notre correspondant local nous en parle.
La congrégation des sœurs dominicaines missionnaires des familles du diocèse d'Isiro-Niangara a tenu le tout premier chapitre général de son histoire du 23 août au 2 septembre au centre de spiritualité Bienheureux Isidore Bakanja. Sœur Béatrice Gracielle Marie Mabou-Sandrodou a été élue toute première supérieure générale. La sœur Marie-Claire Marie Mikanda sera la vicaire générale et trois sœurs seront des conseillères générales. Marie de l'Eucharistie Mbaliandroa, Marceline Mapionzi et Anastasie Dangamoya. Le 2 septembre, l'évêque d'Isiro-Niangara, Mgr Julien Andavo, a exhorté les religieuses à un engagement responsable pour promouvoir la congrégation et son charisme. Le chapitre général a permis aux sœurs dominicaines missionnaires des familles de se donner de nouvelles orientations sur le plan spirituel, communautaire, apostolique et économique. L'institut religieux a été fondé par Mgr Ambroise Ouma en 1979 comme une union pieuse des filles de Saint-Dominique. L'institut a été érigé canoniquement le 2 avril 1991 et dénommé Congrégation des filles de Saint-Dominique par Mgr Émile Haïti. Le 30 septembre 2012, le nouvel évêque, Mgr Julien Andavo, prit une nouvelle disposition de la congrégation devenant la Congrégation des Dominicaines Missionnaires des Familles. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le chef des putschistes en Guinée a promis lundi la mise en place d'un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une période de transition politique et assurer qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières contre l'ancien pouvoir. Une concertation sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition, a dit le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya dans un discours, sans toutefois préciser la durée de la concertation ni de la transition. En Tunisie, un jeune homme blessé pendant la révolution tunisienne de 2011 s'est immolé par le feu après avoir dénoncé l'absence d'aide du gouvernement. Ce geste rappelle celui de Mohamed Bouazizi, le vendeur ambulant qui s'était immolé par le feu le 17 décembre 2010, déclenchant la révolution tunisienne qui a mis fin au règne du président Zine El Abidine Ben Ali et donnant le coup d'envoi aux révoltes du printemps arabe dans d'autres pays de la région. Neji Efiane, 26 ans, est décédé samedi dans un hôpital de la banlieue sud de Tunis. Il s'était immolé par le feu jeudi devant sa famille, justifiant son geste par des conditions sociales difficiles. Habitant à Intilaka, l'un des quartiers populaires de Tunis où s'étaient produites des manifestations violentes lors du soulèvement populaire entre décembre 2010 et janvier 2011, Neji Efiane, qui à l'époque n'était âgé que de 16 ans, avait été blessé par balle à la tête. Depuis, il n'avait reçu aucune aide des autorités et s'est senti complètement ignoré alors que son nom figurait sur la liste officielle des blessés de la Révolution, selon sa sœur Zora. 6 personnes sont mortes dans l'effondrement dimanche d'un immeuble en construction à Kampala, la capitale ougandaise, après des pluies torrentielles. C'est ce qu'a annoncé la police lundi après le départ des derniers sauveteurs. L'immeuble de 4 étages partiellement détruit se trouve à côté de la gare routière de Gisenyi, habituellement bondée et point névralgique pour les transports en commun de cette ville de plus de 1,5 million d'habitants. Les sauveteurs, intervenus jusque tard dans la nuit, ont réussi à sauver et mettre à l'abri 8 personnes, dont 2 fillettes de 5 et 9 ans, retrouvées vivantes et transportées à l'hôpital, a précisé la police. Ils n'ont rien pu faire. En revanche, pour 6 personnes, dont 4 femmes, dont les corps sans vie ont été extraits des décombres.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Les autorités libyennes ont annoncé lundi la libération des prisonniers politiques, dont un proche de l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi, qui ont purgé leur peine ou été détenus sans procès. Le nombre d'opposants libérés ou la date de leur élargissement n'ont pas été précisés. Seule l'identité de Ahmad Ramadan Al-Assebei a été communiquée. Ce dernier, ancien colonel de l'armée et ancien directeur de cabinet et des renseignements de Muammar Kadhafi, avait été arrêté en septembre 2011 en pleine révolte populaire contre le dirigeant libyen qui a été tué par les rebelles en octobre de la même année. Dimanche, Saadi Kadhafi, l'un des fils de Muammar Kadhafi, emprisonné depuis 7 ans, a été lui aussi libéré en application d'un verdict rendu voilà plusieurs années. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a déclaré lundi que son transport d'armes vers le Soudan était une expédition légale et commerciale d'armes de chasse après la confiscation de la cargaison par les autorités de Khartoum. Un média officiel soudanais a annoncé dimanche que les autorités soudanaises avaient saisi samedi soir à l'aéroport de Khartoum une cargaison d'armes qui provenait de l'Éthiopie voisine. La cargaison est arrivée sur un vol commercial d'Ethiopian Airlines et une enquête a été aussitôt lancée. Le Soudan connaît une transition difficile depuis l'éviction en avril 2019 du président Omar el-Béchir sous la pression de la rue. Mais Ethiopian Airlines, le plus gros transporteur d'Afrique, a déclaré que la compagnie dispose de tous les documents prouvant la légalité de l'expédition, évoquant notamment une lettre du ministère soudanais des Affaires étrangères. L'expédition d'armes d'Ethiopian Airlines au Soudan est un transport légal et commercial d'armes de chasse avec tous les documents en règle de l'expéditeur et du destinataire, écrit Ethiopian Airlines dans un communiqué. La compagnie a ajouté que ces armes ont été détenues par les autorités de sécurité à Addis Abeba pendant une longue période pour vérification et que le destinataire de la cargaison avait poursuivi Ethiopian Airlines devant un tribunal soudanais pour soit les livrer, soit verser une indemnité de près de $250,000. À la machette ou par balle, au moins 30 personnes ont été tuées ce week-end à Ituri, province de l'Est de la République démocratique du Congo, où sévit notamment le groupe armé ADF, accusé par la population de ce nouveau massacre. L'Ituri, comme la province voisine du Nord Kivu, est sous état de siège depuis début mai, mesure exceptionnelle censée mettre un terme aux activités des multiples groupes armés qui terrorisent les habitants depuis plus de 25 ans dans ces régions dont ils se disputent les ressources. Le mouvement des rebelles a été signalé vendredi, mais il n'y a eu aucune action militaire. Nous alertons. Nous ne savons quoi faire, a imploré Dieudonné Malangai, responsable de la société civile de la collectivité de Wallace-et-Bonkoutou.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine sur la santé avec Donatien Niembo.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
Notre magazine santé de ce jour porte sur l'annonce faite par l'OMS la semaine dernière, selon laquelle plus de 700 millions de personnes hypertendues ne seraient pas traitées. Selon la première analyse mondiale complète de l'évolution de la prévalence, la détection du traitement et de l'équilibre de l'hypertension menée par l'Imperial College London et l'Organisation mondiale de la santé, publiée dans la revue des Lancet, le nombre d'adultes âgés de 30 à 79 ans hypertendus est passé de 650 millions à 1,28 milliard au cours des 30 dernières années. Près de la moitié de ces personnes ignoraient qu'elles étaient hypertendues. L'hypertension qui fait augmenter considérablement le risque de cardiopathie et d'affection cérébrale ou rénale et est l'une des principales causes de mortalité et de morbidité dans le monde. Elle peut être facilement détectée par la mesure de la tension artérielle au domicile ou dans un centre de santé et peut souvent être traitée efficacement à l'aide de médicaments peu coûteux. Bien que l'hypertension soit facile à diagnostiquer et relativement simple à traiter à l'aide des médicaments peu coûteux, l'étude a mis en lumière des lacunes importantes dans le diagnostic et le traitement. Environ 580 millions de personnes hypertendues ignoraient leur état car elles n'avaient jamais bénéficié d'un diagnostic. L'étude a également montré que plus de la moitié des hypertendus, soit 720 millions de personnes au total, ne recevaient pas le traitement dont ils avaient besoin. Le professeur Majid Desati, auteur principal de l'étude et professeur spécialiste de la santé environnementale mondiale à la School of Public Health de l'Imperial College London, a déclaré « Alors qu'un traitement de l'hypertension, trouble facile à diagnostiquer et à traiter à l'aide de médicaments peu coûteux, existe depuis 50 ans, le fait que tant de personnes hypertendues dans le monde ne bénéficient toujours pas du traitement dont elles ont besoin est un échec de la santé publique. C'est au Canada, en Islande et en République de Corée où plus de 70% de personnes hypertendues avaient reçu un traitement en 2019 que ceux qui en avaient besoin, hommes et femmes, avaient le plus de chances de recevoir un traitement efficace. Comparativement, les hommes et les femmes en Afrique subsaharienne, en Asie centrale, du Sud et du Sud-Est et dans les pays insulaires du Pacifique sont ceux qui ont le moins de chances de bénéficier d'un traitement. Dans un certain nombre de pays de ces régions, les taux de traitement étaient inférieurs à 25% pour les femmes et à 20% pour les hommes, ce qui engendrait d'énormes inégalités au niveau mondial. Il est encourageant de constater que certains pays à revenus intermédiaires ont réussi à étendre le traitement et atteignent maintenant des meilleurs taux de traitement et d'équilibre de l'hypertension que la plupart des pays à revenus élevés. Par exemple, le Costa Rica et le Kazakhstan ont maintenant des taux de traitement supérieurs à ceux constatés dans la plupart des pays à revenus plus élevés. Les lignes directives de l'OMS pour les traitements pharmacologiques de l'hypertension chez l'adulte proposent de nouvelles recommandations pour aider les pays à améliorer la prise en charge de l'hypertension. Ces recommandations portent sur les niveaux de tension artérielle à partir duquel il faut instaurer un traitement médicamenteux, les types de médicaments ou l'association des médicaments à utiliser, les niveaux de tension artérielle cible et la fréquence du contrôle de la tension artérielle dans le cadre du suivi. En outre, les lignes directives exposent comment les médecins et les autres soignants peuvent contribuer à améliorer la détection et la prise en charge de l'hypertension.
Invité du jour.
Notre invité du jour est encore une fois le cardinal Dieudonné Nzapalainga, archevêque de Bangui en République centrafricaine. Il est accompagné du réalisateur franco-suisse M. Manuel von Stürler. Dans cette deuxième et dernière partie de cet entretien, il continue de nous parler du film Siriri que le cardinal et l'imam de Bangui ont présenté jeudi dernier dans la cinémathèque du Vatican. Monsieur von Stürler nous explique la méthode choisie pour la réalisation. On l'écoute.
J'allais faire un reportage plutôt télévisé, donc avec grande analyse journalistique, essayer de décortiquer tous les enjeux, tous les acteurs et aussi l'héritage de l'histoire. Ou alors, et c'est le choix que j'ai fait, de proposer une immersion dans un temps donné, un arrêt sur image dans l'histoire d'aujourd'hui, et écouter ce qui se passe, le peuple qui n'a d'ailleurs jamais la parole. Il y a très très peu de journalistes qui se rendent dans le pays, pas à Bangui évidemment, mais dans le pays, il y a extrêmement peu de reportages qui se font. Le peuple n'a pas de voix, c'est des sans-voix. Et c'était en fait un grand honneur de pouvoir, une grande chance surtout, de pouvoir aller à leur écoute. Moi, avec vraiment toute mon humilité, c'était d'essayer de retranscrire, porter leur voix, leurs questionnements, leurs doutes, leurs convictions aussi, à travers le parcours du cardinal et de l'imam. Donc, c'est vraiment pas un film qui a la prétention d'expliquer tous les enjeux et toute la complexité de la situation. C'est plutôt donner la parole aux interrogations face à la vie, face à la mort, face à l'espoir, etc.
Alors, une dernière question. Le film Siriri, le cardinal et l'imam, raconte la réalité du peuple centrafricain. Mais à regarder de près, c'est la situation de plusieurs pays africains, bien entendu avec des nuances selon les contextes. Pensez-vous finalement que la paix soit possible en Afrique? Et quel message portez-vous à l'intention des nombreux Africains qui vous suivent, jeunes et vieux, hommes et femmes, catholiques ou non?
Merci, moi je pousserai encore le bouchon plus loin en disant que c'est pas seulement pour l'Afrique, c'est pour le monde. Puisqu'il y a un journal qui a titré, en faisant le lien avec ce qui se passe en Afghanistan, en parlant de dialogue que nous avons commencé en République centrafricaine, que les talibans ou les Européens et les Américains devaient prendre aussi l'exemple pour engager le dialogue avec ces gens. Moi, je pense que c'est important que les pays d'Afrique puissent se regarder, et surtout les frères d'un même pays, se regarder en face. Souvent, quand on ne connaît pas l'autre, on le prend pour un ennemi, pour le diable incarné. Mais plus on s'approche de lui, on découvre qu'il a une tête, qu'il a une bouche, qu'il a un cœur, qu'il a des bras, qu'il a des mains, et il peut apporter quelque chose. Et c'est important. C'est important parce que ce film que nous avons fait montre que les préjugés qu'on avait avant sur l'autre tombent comme des masques que nous portons. C'est dans la rencontre, c'est dans l'approche et c'est dans les échanges que nous faisons tomber ces préjugés-là. Sinon, on voit les côtés radicaux, et que ce soit du côté chrétien, côté musulman, parce que l'aspiration à la religion est dans le cœur de tout homme. L'ouverture vers l'au-delà, vers le tout autre, qu'on peut donner le nom qu'on veut, c'est inscrit dans le cœur de tout homme. Et nous voulons que cette ouverture vers le tout autre-là, et qui permet de donner, on va dire, des énergies possibles, que celui qui reçoit puisse vivre de cette énergie, on va dire positive, qui est que nous, chrétiens, nous appelons amour avec les autres. Et parfois, c'est ça qui manque. Nous, on va le dire aussi, ce film est fait aussi pour dire que tout n'est pas perdu. Il y a de l'espoir. Pour dire que si les leaders acceptent de taire leurs divergences, de regarder dans la même direction, de mobiliser leur capacité de résilience en disant « Maintenant, nous voulons sauver notre pays, il est possible. » Mais tant qu'on aura des divisions un peu partout, c'est l'œuvre du diable d'ailleurs, eh bien, le problème demeurera et l'espoir tardera à arriver. L'Afrique a besoin de se mobiliser. L'Afrique a besoin de vivre de ses ressources, elle a besoin de ses enfants. Mais qui peut leur dire des messages pour les rassembler? Si les Africains ne sont pas en premier rang, et ce film montre que il est possible. Et nous avons vu des gens avachis, abattus, et quand nous on arrive, c'est de l'espoir. On met partout des feux, des branches pour dire aujourd'hui c'est la joie. Alors qu'ils sont dans la détresse, dans le désespoir. Mais pour eux, c'est la grande joie et c'est important. Voilà pourquoi nous pensons que ceux qui sont à la tête ont un grand rôle. Rôle pour diriger. Chez les chrétiens, on dira, ils ont un rôle prophétique pour pouvoir parler au nom de quelqu'un qui les mandate pour être leur bouche, pour être leur cœur, pour être ses mains. Et c'est important que chacun puisse avoir ce courage, cette audace-là, au nom de ce Dieu-là, d'être auprès des autres. Il est possible de regarder dans la même direction. Il est possible de lutter ensemble. Il est possible de rassembler. D'ailleurs, on dit souvent, avec un seul homme, pas prendre la peau dans la tête, mais avec plusieurs doigts, c'est possible. Donc, unissons-nous. L'unité fait la force. Plus on sera unis, plus on lancera des messages communs, plus on relèvera des grands défis. Et je crois que Jésus-Christ ne s'est pas trompé quand il a dit à ses amis, soyez unis. Cette unité c'est pas l'unicité, c'est la diversité. Et nous sommes divers et différents. Dans le respect, nous pouvons conjuguer nos forces pour sortir. Et je crois que ce message n'est pas seulement pour Centrafrique, pas seulement pour l'Afrique, c'est pour le monde entier.
C'était le cardinal Dieudonné Nzapalainga, archevêque de Bangui en République centrafricaine, et le réalisateur franco-suisse, M. Emmanuel Von Sturler. Ils étaient au micro de Donatien Niembo.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boabolo qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.